Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission que vous connaissez bien, qui est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot « souverainisme » qui est sur la sellette. Le 9 décembre dernier, le président Emmanuel Macron a présenté son programme pour la présidence de la France à la tête de l'Union européenne. Derrière lui, un écran affiché en grand le slogan « Une Europe plus souveraine ». Souverainisme, souveraineté nationale, souveraineté européenne, tentons d'y voir plus clair. Souverainisme nous vient de souverain, du latin superus, signifiant supérieur. Le souverain était alors la personne supérieure, celle qui exerce le pouvoir, qui règne au sein d'un pays. Au XVIIe siècle, le souverain va être utilisé pour se référer également à un État. C'est ce qui constitue la base de notre système international actuel qui repose sur la souveraineté des États. Avec la Révolution française, la souveraineté est associée au peuple, regroupé en corps politique qu'est la nation. La souveraineté en France est alors nationale, signifiant que c'est le peuple qui la détient et qui exerce le pouvoir. Le principe de souveraineté est donc assez ancien, mais le souverainisme, en tant qu'idéologie, est bien plus récent. Il se développa dans les années 90 avec le traité de Maastricht qui proposait une citoyenneté européenne. Le souverainisme anti-européen s'appuie alors sur la glorification de l'État-nation qui serait une protection de la souveraineté nationale face au pouvoir exorbitant de l'Union européenne. En 2005, le souverainisme connaît son heure de gloire lorsque les Français rejettent par référendum l'établissement d'une constitution européenne et le transfert de certaines compétences à Bruxelles. Avec la récente crise sanitaire, le souverainisme est revenu au centre des débats. Beaucoup ont dénoncé les lacunes de l'État-nation dans sa capacité à nous protéger des effets de la mondialisation, matérialisée par exemple par les pénuries de masques. Par opposition, un souverainisme européen a vu le jour, les souverainismes européens, estimant que la France ne peut peser sur la scène internationale qu'à travers l'Union européenne pour les questions environnementale, sécuritaire, industrielle et sanitaire, par exemple. On le voit, le mot « souverainisme » devient alors un mot « valise » qui fait écho à des visions du monde bien différentes les unes des autres qui s'opposent et s'affrontent. Le souverainisme d'extrême droite, qui défend une vision rabougrie et raciste de la communauté nationale, en est l'exemple le plus caricatural. Le souverainisme, nous allons discuter aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Didier Lesky. Monsieur Lesky est un fin observateur de la vie politique française. Il est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il est également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, écrit avec Régis Debray, s'intitule « République ou barbarie ». Didier Lesky, bonjour.
Bonjour.
Le souverainisme des années 90 a connu son apogée avec la victoire du non au référendum de 2005, mais depuis lors, il apparaît comme un mouvement marginal. Comment expliquez-vous cela ?
Alors, marginal, peut-être pas tout à fait, puisque on a dans un certain nombre de pays en Europe et aussi en France des courants qui se situent plutôt à la droite extrême ou à l'extrême droite qui n'hésitent pas à se revendiquer d'une forme de souverainisme, c'est-à-dire de cette idée que chaque nation doit œuvrer pour elle-même et tourne le dos à partir de là à l'idée d'une coopération européenne. Donc Oui, il y a un recul au sens où en 2005, les partisans du non étaient beaucoup plus larges que ces courants. Il faut se souvenir que Laurent Fabius, par exemple, était un des partisans du non.
Oui, Laurent Fabius, l'actuel président du Conseil
constitutionnel.
Mais on voit bien, Didier Lesky, ce qu'est le souverainisme de droite, mais le souverainisme de gauche, existe-t-il ? Quelle est sa différence essentielle ?
Alors, souverainisme de gauche, existe-t-il c'est une discussion pas simple parce que des personnes sont qualifiées de souverainistes, par exemple, et qui se situent indéniablement à gauche sans qu'elles le revendiquent. En tout cas, que toutes ne le revendiquent pas. Par exemple, Jean-Pierre Chevènement dénie cette qualité, dit toujours qu'il n'est pas souverainiste, mais qu'il est pour une souveraineté populaire et pour la défense d'une souveraineté populaire. Mais d'autres peuvent se qualifier de souverainisme. Je dirais que la différence, c'est peut-être le rapport à ce qu'est l'identité française et à ce qu'on peut faire ou pas en Europe. Enfin, dans ce qui disqualifie peut-être le souverainisme, c'est l'attitude de l'Angleterre, par exemple le Brexit avec Boris Johnson, et surtout ce qu'on appelle les régimes illibéraux, ouais, comme la Hongrie, hein, qui est, se revendique d'une identité hostile à l'idée qu'on partage au niveau européen des valeurs communes.
Très bien, mais vous avez parlé d'identité française, mais il me semble que pour les Français, l'identité, c'est prioritairement deux choses. C'est l'État-nation, un attachement important à l'État, et puis c'est un modèle social. Comment expliquez-vous que les souverainistes se trompent souvent sur la notion d'identité en la ramenant fréquemment à une question ethnique ?
Sans doute parce que le souverainisme est quand même quelque chose qui est né à droite et que dans l'histoire française, ce qui caractérise les courants nationalistes, c'est une vision extrêmement fermée de l'identité française, alors que depuis la Révolution française, il y avait plutôt cette idée que on est français dès lors qu'on adhère à un certain nombre de valeurs et surtout c'est à une perspective de construction commune de la nation. Et il y a là peut-être ce qui explique que le souverainisme soit moins attaché à l'idée d'un modèle social qu'à l'idée d'une identité culturelle qui a comme corollaire souvent le racisme ou l'exclusion de l'autre.
Alors, nous avons aujourd'hui une citoyenneté européenne. Les Européens peuvent voter, notamment aux élections locales. La souveraineté ne doit-elle pas être défendue et développée au niveau européen ? Et n'est-ce pas là, en fait, le véritable cadre de protection contre la mondialisation pour résister aux grands ensembles russes, chinois ou américains, notamment ?
Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine de la construction européenne, il y a à la fois la défense de valeurs générales communes, humanistes, et puis l'attachement à un modèle social autour de la santé, de la protection générale des personnes, hein, et que ce modèle-là, il est en contradiction, disons, il s'oppose à des modèles où l'attention aux personnes, l'attention à un modèle social n'est pas ce qui domine, hein, la protection des travailleurs, par exemple, ou la protection des femmes. Bon, mais la difficulté que nous avons, c'est qu'une partie de ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis le lancement de cette construction européenne ne partage pas totalement ces valeurs. Et c'est pour ça, du reste, que la Commission se bat vis-à-vis d'un certain nombre de pays, en particulier d'anciens pays de ce qu'on appelait du bloc de l'Est, pour que leur adhésion à l'Union européenne ne soit pas simplement formelle. Enfin, ce qui est le corollaire de la souveraineté européenne, c'est souvent la possibilité ou la matérialisation de politiques communes. On l'a vu au niveau de l'espace, on l'a vu historiquement au niveau du charbon et de l'acier, et la difficulté aujourd'hui, c'est de faire partager de plus en plus l'idée de politique commune à l'ensemble des pays d'Europe, La question de l'asile, par exemple, est aujourd'hui très clairement un frein à l'idée qu'on a une Union européenne qui serait souveraine sur ces questions-là.
Oui, et du coup, ça renvoie à la question de politique construite autour d'une majorité de pays de l'Union européenne et non plus selon la règle de l'unanimité.
Bien sûr, la question c'est celle de l'entraînement, mais il faut se souvenir qu'à un moment donné, au milieu des années 70 et au début des années 80, eh bien, faire adhérer l'Espagne ou le Portugal à l'Union européenne, c'était justement entraîner ces pays vers plus de démocratie, alors que c'était des pays qui sortaient de régimes de dictature. On peut y rajouter la Grèce. Et donc, il y avait l'effet d'entraînement était plus fort que l'unanimisme qui peut être paralysant. Et il faut retrouver cet effet d'entraînement pour éviter que se constituent des blocs qui soient hostiles philosophiquement à ce qui a été depuis l'origine la construction européenne, qui a amené quand même sur ce continent une paix de longue durée, alors que nous avons vécu pendant des décennies dans un affrontement en particulier entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, le cœur de l'Union, c'est la fraternité entre deux pays que sont la France et l'Allemagne.
Didier Leschi, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.